Alors, j'ai pas complètement en tête le programme des conférences. C'est dommage, ça aurait été bien que je vous dise. Mais peut-être que les princes, on l'a pas en tête, le programme des conférences, hein, pas encore. Hein.
Bah, si, à peu près.
À peu près.
Ouais.
Bah, à la limite, du coup, à ce moment-là, peut-être n'hésitez pas à intervenir. Vous me coupez la parole, en fait, hein, très grossièrement. Et si vous dites, ah, bah, ça, on le verra, il y aura une conférence, il y a quelqu'un qui va nous en parler. Ok, okay. On fait comme ça ? Enfin, très grossièrement, mais dans certaines limites, hein, quand même. Hein. Non, mais je veux dire, pas d'insultes, pas de... Alors, bon, d'abord, on va... Bon, alors, en fait, il faut que vous sachiez d'une manière générale, hein, ça se coupe. Donc, je suis un peu un escroc, hein, je passe ma vie à parler de trucs que je connais pas, mais j'ai remarqué que si on compense l'ignorance par l'assurance, ça passe, en fait, du tout. Donc, moins je sais... Et plus je suis affirmatif. Voilà, donc c'est un petit peu pour... Alors déjà, je vais tester un petit peu vos connaissances linguistiques, parce que, bon, c'est très facile, hein, mais... Comment est-ce qu'on dit « saint » en français, là, je viens de le dire, mais par exemple, en latin.
Sanctus,
ça c'est facile. Hein. Alors en grec, c'est un petit peu plus...
Agios.
Agios, oui, Agios. Je crois qu'en Grèce, il doit y avoir, ou en Crète, il doit y avoir un port qui s'appelle Agios Nikolaios. Ça doit vouloir dire Saint-Nicolas, hein, sans être... Alors, plus compliqué, comment est-ce qu'on dit Saint en hébreu ? Mais moi, les malins, là, hein. ça rigole plus, là. Hein. Non, parlez bien fort. Non, Kavod, c'est la gloire. Enfin, c'est le poids d'avoir Kavod, c'est quelque chose de pesant. Mais c'est déjà bien de connaître un mot hébraïque. Hein. Comment tu dis ? Oui, mais c'est la même racine. Voilà, c'est exact. Ou Al-Quds, hein, donc Kadosh. Le Kiddush, c'est le rituel des défunts dans la liturgie synagogue. Kadosh, hein, ça veut dire saint. Bon, on essaie de... Donc c'est Kouf, Dalet, Shin. S'il y en a des qui savent l'alphabet. Alors, il faut partir du départ. Hein. En fait, c'est une notion, nous, quand on pense saint, on pense, par exemple, saint Padre Pio, que j'ai magnifiquement honoré. Enfin, j'aime beaucoup, mais c'est vrai que, en fait, je voulais vous souhaiter la bienvenue, puis du coup, je m'étais préparé à essayer de faire un lien, pas évident d'ailleurs, entre Padre Pio et l'aumônerie, et puis ça m'est sorti de la tête, et après, j'allais pas en plein milieu d'un truc dire, bon, en fait, c'est Padre Pio, mais... Mais donc, bon, quand on pense saint, nous, souvent, on pense sainte Thérèse d'Avila, saint Padre Pio, et c'est un peu ça qu'on voit, c'est-à-dire quelqu'un qui a un modèle de vie chrétienne, ouais, ça, je dirais, qui est canonisé, ou peut-être pas canonisé, on va dire, celui-là, c'était un saint, ouais, c'est vraiment un saint prêtre. Bon, et alors, mais c'est pas tellement l'origine de la notion. Moi, je vais essayer de vous faire un parcours, comment est-ce qu'on est arrivé à cette notion-là ? Alors, c'est d'abord une notion rituelle, voilà, c'est ça qu'il faut retenir. Kadosh, mais d'ailleurs aussi Agios, c'est d'ailleurs Sanctus, hein, c'est exactement. Ça désigne l'appartenance à Dieu ou disons à une divinité, si on est dans un contexte polythéiste. Ce qui, je rappelle, n'est pas forcément le cas à nous comme chrétiens, hein, n'est pas. Voilà, il y a des sanctuaires où on offre des sacrifices, il y a des oracles, il y a parfois des chants, de la musique, il y a du personnel qui, au service du sanctuaire. Ouais. Le sanctuaire, comme le nom l'indique, hein, le temple, le sanctuaire, c'est quelque chose qui est sous contrôle d'un dieu. Ça peut être Zeus, ça peut être une Ashera, c'est une divinité syrienne, ça peut être... Je sais pas comment l'appeler, parce qu'on n'a pas le droit de mettre les voyelles. Enfin, le dieu d'Israël, quoi, par Jéhovah, enfin, on n'a pas le droit de dire son nom, mais... Et alors, tout ce qui est dans l'orbite du temple est saint. Vous voyez, par là. Évidemment, là, par exemple, vous faites un sacrifice, la viande que vous offrez au dieu pour faire un repas sacré, elle est sainte. C'est une réalité sainte. Mais du coup, c'est comme la sainteté, le grand principe du rite, c'est que ça se propage par contact. Donc du coup, alors l'autel, tiens, par l'autel qui est une espèce de barbecue en fait, hein, c'est une table et un barbecue en fait, un autel, où on fait cuire de la viande, c'est sain aussi, c'est même plus sain d'ailleurs que la viande elle-même. Les ustensiles pour entretenir le feu, tous ces trucs-là, c'est sain. Alors le personnel sacerdotal, au moins dans l'exercice de ses fonctions, il est saint aussi. Ça veut dire qu'il est, il échappe aux règles habituelles de la vie des hommes et il est entièrement commandé par le Dieu qui habite dans le sanctuaire ou qui vient au sanctuaire quand on offre des sacrifices ou ces choses-là. Alors du coup, même le sol sur lequel il y a souvent une enceinte, en général on essaie de contrôler la sainteté parce que c'est très dangereux, c'est radioactif. On a plutôt la sainteté, ça embête tout le monde en fait, hein, mais parce que si la sainteté, le danger, si on est saint sans le savoir, c'est marrant comme phrase. Je suis saint sans le savoir. En fait, c'est marrant. Et si on est saint sans le savoir, en fait, du coup, on peut profaner la sainteté. C'est ça qui est dangereux. Oui, l'accident d'être, un truc qui nous arrive tous les jours. Vous allez offrir un sacrifice à Zeus, par exemple. Demain matin, un bête, les enfants, voilà, tiens, c'est vendredi, tiens, si j'offre un sacrifice à Zeus, alors, il va offrir son sacrifice à Zeus, là, ça, la barbecue, tout ça, le viande, tout ça, et puis il oublie de faire un rite de purification, parce qu'on lui passe un coup de fil, tout ça, et il ressort, il a été en contact, il a mangé la viande sainte, il a touché le prêtre, il lui a filé un peu d'argent, là, tout ça, les prêtres, il s'en va, et du coup, il met la viande, pardon, dans son truc saint, il oublie le machin, et... Il peut lui arriver, je ne sais pas, par exemple, ça tombe par terre, ou il y a un insecte qui meurt, et qui, enfin, un cadavre très dangereux. Il profane la sainteté du dieu. Alors là, le dieu n'est pas content, et il se venge, et du coup, plein de problèmes. Et peut-être, voilà, c'est un peu l'histoire de la vie d'Abel. Hein, c'est plein de vie. Parce qu'il a profané, sans le savoir, la sainteté de Dieu. Donc la sainteté, on est très attentif, on la limite dans l'enceinte du temple. Alors dans l'enceinte du temple, en gros, tout est saint. Et à l'extérieur du temple, rien n'est saint. C'est ce qu'on essaye le plus possible de faire. Vous voyez, la poussière du sol, par exemple, c'est compliqué. Parce que quand vous faites pour... on emmène toujours un peu de poussière. Donc alors, on rentre pieds nus, normalement, et puis on se lave les pieds. Parce qu'il ne faut pas emporter de la poussière. On risque de mettre de la sainteté dans le monde. Il ne faut pas qu'il y ait de la sainteté dans le monde. Enfin, au sens où je le dis, hein, au sens rituel. Hein. Voilà, donc c'est une notion rituelle. Et en même temps que, alors je vous dis, c'est à la fois, finalement ça connote l'appartenance à Dieu ou à un Dieu, ça connote deux choses, c'est la séparation, disons, du monde profane, c'est une notion corrélative du profane, le saint. Le saint n'est pas profane, le profane n'est pas le saint. Et puis la consécration à Dieu, voilà, c'est vraiment les deux choses. Hein. On est mis à part, on quitte le monde profane pour se dédier à un Dieu. Moins dans le cadre du sacrifice, du repas sacré. Et alors ça, c'est une notion, je ne dis pas que toutes les religions du monde ont ça, parce qu'il faut se méfier, toutes les généralités sont fausses. Hein. Et 73% des statistiques sont erronées, hein. Ça a été prouvé statistiquement. Donc je ne dis pas que toutes les religions ont cette conception de la sainteté, mais il y en a quand même beaucoup, 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 beaucoup. La religion grecque, c'est ça. La religion romaine, c'est ça aussi, hein. Les Babyloniens, les Hittites, pareil. Alors, il faudrait chercher un truc qui est souvent un peu bizarre, enfin, qui n'est pas comme chez nous, enfin, chez nous, oui. Enfin, donc, qui n'est pas comme dans l'orbite biblique, et chez nous, c'est le Proche-Orient ancien, en fait. Hein. C'est du côté dans l'hindouisme, ça, c'est quand même assez différent. Hein. Par exemple, donc, il faudrait voir si dans l'hindouisme, comment ça fonctionne. Mais disons, il y a quand même beaucoup ce principe de la sainteté que je viens de vous dire, c'est très, très général. Et Israël va prendre cette notion de sainteté et petit à petit va la travailler, hein, sous l'action de Dieu, hein, moi je pense, sous l'action de l'Esprit Saint. Les choses vont petit à petit bouger, à tel point que d'ailleurs ça va finir par signifier presque le contraire de ce que c'était à l'origine. Enfin, c'est assez étonnant. Bon, c'est ça que je vais vous expliquer en deux minutes. Oui, ça au sens que je viens de dire, dernier point pour mon introduction, c'est en latin en tout cas, c'est à peu près la même chose que sacré. Oui, sacer, homo sacer, hein, c'est sanctus, sacer ou sanctus, c'est presque synonyme. Voilà, alors justement, comment ça se passe dans la religion biblique? Alors, je prends, mon plan est simple, hein, j'ai fait une espèce de... J'ai donné du mal, hein, bien du mérite. Hein. Alors, première partie, l'Ancien Testament. Après, je me suis dit, tiens, je vais faire un truc original. Deuxième partie, Nouveau Testament. Je me suis dit, et puis après, troisième partie, la suite, la tradition chrétienne. C'est vrai comme ça. Hein. C'est trois parties, un peu chronologique, hein, aussi, quelque part. Donc, j'ai trouvé que c'était bien. Alors, comment est-ce que dans l'Ancien Testament on va travailler la notion? Alors d'abord, ce qu'il faut voir, percevoir, c'est que on va, on va théologiser au maximum la chose. Alors théologiser, c'est un néologisme, mais ce que je veux dire, c'est que on va insister pour dire que la sainteté, on va en faire un attribut essentiel de Dieu. Vous voyez, c'est pas tout à fait exactement la même chose que ce que je disais avant, parce que normalement, la sainteté, on est dans le cadre du culte, on est déjà dans le cadre des rapports de Dieu avec l'homme. Vous voyez ? C'est une notion qui sert à réguler les rapports entre Dieu et les hommes. C'est pas forcément un attribut essentiel de Dieu. Alors que si on dit que c'est un attribut essentiel de Dieu, ben Dieu, avant même la création, on pourrait dire qu'il est saint. Vous voyez, il n'y a pas besoin d'avoir un culte pour qu'il y ait de la sainteté. Dieu est saint en lui-même. Ça, c'est une première manière d'étendre la notion. Alors ça, c'est un truc qui va être très, très opérant, alors assez tardivement hein, au fond, mais c'est pendant l'exil à Babylone. Peut-être parce que justement, on est en contact avec une religion très, 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 comment dire, très, très vigoureuse et très, qui a des rites absolument splendides. Hein, la religion babylonienne, enfin, Babylone, il faut quand même voir ce que c'est New York, hein, Babylone à l'époque. Hein. Ça, c'est gigantesque, c'est Manhattan. Hein, c'est, et donc, et alors que les mecs, ils viennent de Montargis, quoi, à la limite. Hein, il y a les Jérusalem. Non, mais quand dans la Bible, Jérusalem, j'ai l'impression que c'est génial, mais en fait, c'est Montargis. Hein. Le tout gros truc, c'est la fête du boudin, quoi. Enfin, ils arrivent à Manhattan, et il y a, qu'est-ce qu'il y a là, je sais pas, la cérémonie des Oscars, quoi, c'est à Manhattan. Vous voyez, le côté, alors... Bon, alors, c'est un peu... Ils se rendent compte qu'ils sont très provinciaux, nos amis israélites, mais en même temps, ça va les amener à essayer de se différencier le plus possible de la religion dominante pour ne pas être absorbé par la religion babylonienne. Et alors c'est là où ils vont commencer à dire mais notre Dieu, il est saint en lui-même. Il est absolument séparé. Ce qui est une manière de dire que, si vous voulez, c'est une autre manière d'insister sur la transcendance de Dieu. Finalement, on peut dire ça comme ça. Dieu est séparé. C'est pas simplement qu'on est séparé pour être du monde profane, pour être au service d'un sanctuaire, c'est que Dieu lui-même est séparé du monde comme tel. Vous voyez le coup, en fait. Ça met Dieu à part du monde. C'est pas seulement dans le monde je suis à part, c'est Dieu lui-même est à part du monde. Par exemple, j'ai des références que vous avez sûrement oublié de prendre vos Bibles. En Isaïe 43, 14, alors, « Ainsi parle le Seigneur, votre Rédempteur, le Saint d'Israël. » Tiens, voilà, cette expression arrive à ce moment-là. « Le Saint d'Israël. À cause de vous, j'ai envoyé quelqu'un à Babylone. » Ou en 45, 11, même tournure, « Ainsi parle le Seigneur, le Saint d'Israël, son Créateur. » Puis 54, 5, ça c'est très connu. C'est très belle oracle. « Ton Créateur, donc Dieu parle à Israël, ton Créateur est EST, ton époux. » Ton Créateur, c'est ton époux. Le Seigneur des armées, c'est son nom. Le Saint d'Israël est ton Rédempteur. Donc Dieu est le Saint, ce qui permet à la fois de dire que Dieu est séparé du monde et aussi que Dieu est séparé des divinités païennes, en particulier de Marduk et tous ces dieux babyloniens. C'est exactement le cadre. C'est en gros dans cette période que, finalement, on peut dire Israël devient monothéiste. Bon, c'est un mot savant... c'est pas un mot biblique, mais disons, les historiens des religions disent qu'il y a une première période où Israël est plutôt monolatrique, c'est-à-dire monolâtre, peut-être que ça suffira comme ça. C'est-à-dire que on sait qu'il y a différents dieux, mais il y a un seul dieu qu'on honore et c'est le nôtre, qui est Dieu d'Israël. Mais bon, après, les Assyriens ont leur dieu, les Babyloniens ont leur dieu. Nous, on ne rend de culte qu'à un seul dieu, qui est le Dieu d'Israël. L'étape supplémentaire, c'est, pendant l'exil à Babylone, les autres dieux sont des faux dieux, en fait. Il n'y a qu'un vrai dieu, c'est le dieu d'Israël, le saint. Alors, autre endroit caractéristique de cette théologie de la sainteté de Dieu, c'est quelque chose, c'est une petite ritournelle, une petite chansonnette que vous avez chantée il n'y a pas 2 heures à la messe. Qui trouvera ? Hein ? Le sont tous, hein, les Grecs disent le trisagion, hein, 3 fois 5. Ça, alors c'est en Isaïe 6, c'est la vocation d'Isaïe. Alors, c'est un peu le début de l'apocalyptique. Hein. Isaïe, il est comme transporté dans une vision mystique. dans le Saint-Dessin, alors qu'il n'a pas du tout le droit, il n'y est pas physiquement, hein, il n'a pas le droit d'y être, il n'est pas prêtre. À cette époque-là, la religion, ça se tenait, hein, les prêtres, c'est un autre sujet, mais donc, pas intéressant, mais donc c'est un autre sujet, et donc il est dans le Saint-Dessin, qui est la partie la plus secrète de Dieu, du sanctuaire, c'est vraiment là où Dieu, quand Dieu vient sur terre, c'est sa chambre d'hôtel, en fait, toujours la même chambre. Il descend dans le Saint-Dessin, donc c'est hyper dangereux d'y être. Vraiment, il n'y a que le grand prêtre qui va dans le Saint-Dessin une fois par an pour tout pour. Et Isaïe, tranquillou, il y va, enfin une vision mystique, hein. Et puis alors c'est le tout machin, c'est le tout gros truc, hein. Il y a le son et les images, hein, qui sont en 3D et tout, donc il voit de la fumée, parce qu'il y a... Et puis alors, il n'ose pas trop dire Dieu, on n'écrit pas trop Dieu, parce que ça on n'ose pas trop, enfin l'apocalyptique tutoie un peu ça, mais... Mais par contre, il décrit le monde céleste qui accompagne Dieu. Parce que vous comprenez bien, Dieu, c'est un peu comme une rockstar. Hein. Une rockstar, hein, il y a toujours le garde du corps, le secrétaire, ou un ministre. Hein. Il y a toujours le petit personnel qui vient avec. Ça fait partie du décorum. C'est pareil avec le bon Dieu. Donc il a des saints, des anges qui viennent. Et alors, les anges chantent la sainteté de Dieu. Saint, 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 le Seigneur des armées. Alors c'est eux-mêmes l'armée, hein. Ce vent en hébreu c'est l'armée, de Dieu c'est les anges. Hein. Oui, donc c'est la même époque. Alors celui qui va, il y a un prophète, j'ai cité Isaïe, je vais citer Ézéchiel, qui va encore intensifier cette, encore une fois c'est un néologisme, cette théologisation, c'est vraiment pas beau, de la sainteté, de dire c'est un attribut de Dieu, c'est même la définition de Dieu. Dieu est le saint, le saint c'est Dieu. Alors comment il fait ça? C'est dans sa manière de comprendre le châtiment de l'exil à Babylone. Il écrit au début de l'exil, toujours à une période, et alors lui il dit en fait on a été exilé parce qu'on a été infidèle à la loi de Moïse. Et alors du coup, Dieu a rompu l'alliance et Israël sans son Dieu, bah, Israël ne tient pas en fait. Israël n'a plus aucune cohésion, c'est-à-dire Israël s'effondre et donc bah, à ce moment-là, les armées ennemies viennent. Et même Dieu, pour bien faire comprendre à Israël que Israël a été infidèle, Dieu va même susciter l'invasion de la terre d'Israël, de la terre sainte, d'Israël, la terre d'Israël, par les armées babyloniennes. D'où l'exil. Mais alors le problème, c'est que ces andouilles de Babyloniens, de Chaldéens, en fait, ils ne comprennent pas du tout, c'est pas du tout la lecture qu'ils font de l'événement. La lecture que font les Babyloniens de l'événement, c'est quoi? Tiens, on va demander, je vais vous demander là, je vous l'ai expliqué 1000 fois, hein, les anciens, donc je vous l'ai expliqué 10 000 fois. Donc en gros, hein, je vais en faire plus simple, donc les Israélites ne pas bien, donc Dieu... un gros marteau, il tape sur la tête des Israélites. Le gros marteau, il s'appelle comment, le gros marteau? Nabucodonosor, hein, donc c'est un gros méchant roi babylonien. Donc Nabucodonosor, il emmène en gros les élites, hein, les normaliens, les énarques, les paysans, il les laisse sur place, hein, mais il emmène les élites à Babylone. Réaction des Babyloniens, comment est-ce que les Babyloniens comprennent l'événement? Voilà, les Babyloniens. Merci Emmanuel. Il faut 4 ans hein, pour retirer ce que je dis. Hein. En 4e année. Hein. Il faut 4 ans pour retirer ce que je dis. Ça fait plaisir, vraiment. Les Babyloniens, au lieu de dire tiens, le Dieu d'Israël a puni son peuple parce qu'ils n'ont pas respecté la Torah, ils disent mais en fait, on est vraiment les meilleurs, en fait. Et notre Dieu Marduk, c'est le champion, et le Dieu des Israélites, c'est de la bibine. Alors là, vous comprenez que du coup, le bon Dieu, il aime pas trop ça, en fait. Hein, ça, il aime pas trop qu'on lui fauche sa victoire. Et alors, du coup, il va, pour son nom, en fait, pour la préservation de son nom, il va être obligé de ramener Israël sur sa terre. Vous voyez, c'est marrant, en fait, comme c'est une manière, c'est marrant comme truc, parce que, alors, il le dit mieux que moi. Hein, là, je vous fais Ézéchiel, ça, c'est à ma manière de faire. Hein, bon. Et comment qu'il dit Ézéchiel au peuple, 36, 23, alors c'est Dieu qui parle à Israël, et Dieu leur dit, je sanctifierai mon grand nom qui a été profané parmi les nations au milieu desquelles vous l'avez profané. Vous voyez, on retrouve l'idée qu'il ne faut pas profaner ce qui est saint. Mais là, qu'est-ce qui a été profané? C'est pas le bout de viande, c'est le nom de Dieu, c'est-à-dire la réputation de Dieu. Parce que les Babyloniens, quand ils vont au bar le soir, ils disent, ah, vous avez vu le Dieu d'Israël, là, le tétragramme, qu'est-ce qu'on leur a mis, hein, le Dieu des Juifs, c'est rien, c'est vraiment pas grand-chose à côté de Marduk. Hein. Voilà, donc ils disent du mal, ils salissent le nom de Dieu, donc ils profanent la sainteté du nom. Et donc Dieu dit, bah, puisque c'est comme ça, je vais sanctifier moi-même mon nom. C'est-à-dire faire comprendre aux Babyloniens, je vais leur montrer qui c'est Raoul en fait. C'est un petit peu ça qu'il dit à Israël. Et les nations sauront que je suis le Seigneur. Voilà, je vais leur montrer qui c'est Raoul. Oracle du Seigneur, quand je ferai éclater ma sainteté à votre sujet sous leurs yeux. Vous voyez, en gros, il leur dit aux Israélites, normalement c'est vous qui aviez la charge de ma sainteté. C'est à vous que j'avais confié le job. Vous êtes pris comme des manches. Résultat, j'ai été obligé de vous punir, de t'envoyer à Babylone. Mais maintenant, on profane mon nom. Ben, du coup, je vais prendre les choses en main, je me mets au volant et je vais sanctifier mon grand nom. Et comment est-ce que Dieu sanctifie son grand nom? Alors, j'apprécie, j'aime beaucoup ce que tu dis, mais c'est pas ce qu'il a fait, c'est donc un peu dommage. Mais alors, donc là, voilà, au niveau d'un monde, déjà, non. Alors en fait, non. Il n'a pas bousillé les Babyloniens. Il a fait un truc plus positif, plus gentil, ou plus chrétien déjà, peut-être un peu, il a ramené Israël sur sa terre en fait. Mais sans que Israël puisse dire c'est grâce à nous, puisqu'il ne peut même pas accomplir la loi de Moïse en exil à Babylone. Ça y est, il faut que je m'arrête, dans 10 minutes je m'arrête alors. Alors vous voyez, ça vous fait penser à quoi ça, Dieu qui dit je sanctifierai mon nom, la sanctification du nom, ça vous fait penser à quoi? Pareil, hein, à la messe, là, on n'a pas Saint, tout ça, on a dit, mais il y a un hein. Ben voilà, pater, monster, mais évidemment, que ton nom, vous savez, pater, en fait, quand vous le dites 4 fois par jour, je suis sûr que vous avez. En fait, on ne comprend rien, c'est bon, c'est hyper compliqué le pater, hein, on ne comprend pas ce qu'on dit, en fait. Ça veut dire quoi que ton nom soit sanctifié? Non, mais sans rire, on ne sait pas ce que c'est. En fait, c'est une allusion à Ézéchiel, hein. C'est un passif divin, et donc ça veut dire, en gros, on dit à Dieu, ben justement, prends les choses en main, sanctifie ton nom. Donc on demande à Dieu de faire. C'est une manière de se reconnaître pécheur, hein, au fond, et de dire, mais si on n'est pas capable, si on n'est pas à la hauteur, mais fais qu'on le devienne, ou en tout cas sanctifie ton nom. Fais qu'il n'y ait pas d'ambiguïté sur qui tu es. Alors ça va loin, ça, parce qu'après tout, enfin vous êtes formidable, vous êtes même très saint, hein, c'est excusé, mais moi qui suis un pauvre prêtre, un pauvre disciple, infidèle de. C'est vrai que des fois je me dis, je ne donne pas un bon témoignage de Dieu, de me décrire du chrétien. Ben, d'une certaine manière, je profane le nom de Jésus ou le nom de Dieu. Voilà, c'est dommage. Alors, donc, vous voyez, la prière du Notre Père, c'est aussi dire avec humilité, peut-être, ben, si jamais j'ai pas été à la hauteur, mais au moins que fasse le ciel que j'ai pas entraîné des gens à mal juger du Christ ou mal juger du christianisme, vous voyez. Bon. Donc, sainteté de Dieu. Première dimension par laquelle la sainteté va être épaissie, transformée par l'Ancien Testament. Ça devient un attribut essentiel de Dieu. Dieu est le saint. Et le nom de Dieu, c'est quasi Dieu lui-même, hein, dans la théologie. Ça, ceux qui ont fait le pèlerinage cet été, quel est le livre de la Bible qui insiste beaucoup sur la théologie du nom? Oui, heureusement quand même, le Deutéronome. Vous me direz, on a fait que ça comme livre dans l'Ancien Testament. Donc, c'est pas très compliqué à répondre. Ah voilà, la sainteté, parce que Jérusalem, c'est l'endroit où je fais habiter mon nom. C'est ce que dit, c'est 1000 fois dans le Deutéronome, on a cette phrase. Alors, deuxième notion, qui existe, hein, déjà, je vous ai dit, dans la pensée, enfin, les religions païennes, chez les Grecs, les Romains, mais qui va prendre une coloration un peu différente, c'est la sainteté de l'espace. Dans l'enceinte du temple, c'est saint. Ouais, quand vous avez, regardé. Donc il faut mettre, il faut même physiquement, hein, faut, un sanctuaire, il faut que physiquement il y ait la frontière, parce qu'il ne s'agirait pas de franchir, oh mince, je n'avais pas vu. Non, il faut vraiment qu'il y ait une espèce de petite palissade, et ce qu'il y a à l'intérieur, donc il y a de l'espace qui est saint, mais un tout petit espace. Un sanctuaire, c'est très petit, hein. C'est pas du tout comme nos églises, hein. Nos églises, c'est. Un prêtre païen ne comprendrait pas, enfin on lui dirait que notre truc là, enfin c'est notre truc, c'est pas le mien, enfin le truc de l'église Saint-Étienne-du-Mont, on lui dirait c'est quoi ce bâtiment? Lui dirait bah c'est ressemble vaguement à une basilique, c'est un édifice public, c'est pas du tout un lieu de culte. Un lieu de culte c'est tout petit, hein. Il y a juste la statue du Dieu, puis dehors un hôtel, mais et puis les prêtres, mais il y a 3 personnes à la fois, au pire, il y a 3 personnes à la fois dans le sanctuaire. Donc tout petit espace qui est saint dans l'enceinte du sanctuaire. Alors, le judaïsme reprend cette idée, mais bizarrement, alors même que l'essence, enfin, comment dire, que le, normalement, là, on est hyper attentif pour séparer le saint du profane. Mais voilà que les prophètes bibliques, enfin les prophètes, oui, les écrivains bibliques, vont se mettre à avoir l'idée étrange que, en fait, la sainteté de Dieu va se communiquer à l'espace à partir du sanctuaire. Enfin, qu'on le veuille ou non, en fait. Pas parce qu'on est inattentif en sortant du sanctuaire avec, en n'ayant pas purifié ses pieds, mais parce que Dieu est comme ça, en fait. Dieu, sa sainteté, je vais le dire autrement, c'est pas possible de contenir la sainteté divine dans une par une palissade. Et donc, la sainteté, elle rayonne. Oui, ça renverse, enfin, c'est quand même, ça a l'air de rien, mais ça renverse le concept. Le but du concept, c'est de séparer les choses. Il y a d'un côté le profane, de l'autre le saint. Et voilà qu'on est en train de dire, mais de toute façon, la sainteté, elle va se diffuser à l'espace. Alors, par exemple, il y a une expression qui revient assez souvent dans les psaumes, c'est l'expression « ma montagne sainte ». Alors, la montagne sainte, c'est le mont Sion. En gros, c'est le mont du Temple, hein, si vous êtes allé à Jérusalem, donc c'est la toute petite partie orientale. Alors, on peut dire que c'est une manière de parler. En fait, on désigne le mont du Temple, on désigne le Temple, mais quand même, ça a l'air de dire que, au moins dans le langage, toute la montagne de Sion devient sainte. Et puis, ben, Jérusalem finit par s'étendre. C'est pas que la montagne de Sion. Au début, c'était que ça. C'est un petit éperon rocheux. Mais finalement, surtout après sous Ézéchias, hein, au 8e siècle, quand les Assyriens ont dégommé le royaume du Nord, la population de Jérusalem est multipliée par 10. Donc la ville s'étend énormément et elle s'étend à l'ouest. Et à ce moment-là, la ville est assez plus grande que le mont du Temple, simplement, et il y a une expression qui apparaît, c'est Jérusalem, la ville sainte. Et ça, alors, par exemple, dans le Siracide, c'est moins fréquent qu'un montagne sainte, mais ça apparaît quand même plusieurs fois. Siracide 36, 12, et compassion, c'est une prière, une belle prière d'ailleurs, qu'on a au lot d'un moment donné. Et compassion de ta ville sainte, de Jérusalem, le lieu de ton repos. Ouais. La ville elle-même est sainte. Sainte, c'est-à-dire Dieu y réside, parce que c'est ça un sanctuaire, Dieu y habite. Ou encore Exode 3, 5. Alors, Exode 3, 14, ça c'est facile. Les matheux, voilà, c'est pi, bravo. Mais Exode 3, 14. Et qui dit ? Voilà, alors voilà, sauf que c'est ayez, hacher, ayez, hein, c'est plutôt de l'hébreu que du latin. Mais voilà, c'est facile. Exode 3, 14, c'est la révélation du tétragramme à Moïse. Alors, Exode 3, 5, c'est le début, c'est l'épisode du buisson ardent. Et alors, Dieu dit à Moïse, donc, alors, il y a le buisson qui brûle sans se consumer. Alors, Moïse, qui est un petit peu curieux, dit, tiens, je vais aller voir ce truc-là. Et alors, Dieu lui dit, n'approche pas d'ici, retire tes sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. Voilà. Quand Dieu arrive, l'espace autour devient saint. Donc, encore une fois, les prêtres, normalement, officient pieds nus. Parce que pieds nus, on peut laver les pieds, en fait. C'est ça le principe. Hein. Plus facile de laver les pieds que de laver des sandales. Il vaut mieux se laver les pieds, non, les dents dans un verre à pied, que les pieds dans un verre à dents. Non, c'est pas ça. Alors, à noter que, alors, vous voyez, il y a une expression qu'on emploie facilement, nous, les chrétiens, alors, qui est biblique, mais alors, une seule fois. Enfin, une seule fois en hébreu, on la trouve aussi deux fois en grec, mais qui va exactement dans cette logique-là, c'est l'expression « terre sainte ». La montagne sainte, Jérusalem, ville sainte, c'est un petit peu plus gros, puis même on va dire carrément la terre sainte, ben c'est toute la terre de Canaan, mais occupée par Israël. Alors vous avez ça en Zacharie 2,16. « Le Seigneur possédera Juda comme sa part sur la terre sainte, et choisira encore Jérusalem. » Mais non, toute la terre est sainte, c'est-à-dire que Dieu y habite. Donc vous pouvez rencontrer Dieu partout en terre d'Israël. Normalement c'est au temple, mais par extension c'est le mont Sion, puis par extension c'est Jérusalem, et enfin c'est toute la terre. Alors, ça met en tension avec la notion d'origine qui vise à séparer les choses. La manière dont on a réglé, trouvé une espèce de synthèse, c'est que on va transformer une notion binaire, le contraire du saint c'est le profane, le contraire du profane c'est le saint, en une notion graduée. C'est-à-dire que alors, c'est les prêtres du second temple qui ont opéré cette action, c'est qu'on va dire en fait c'est des échelles, enfin des échelles de noir ou de gris, je crois comment dire, enfin il y a du très très saint, puis du un peu moins saint, c'est les échelles de Richter là pour les trucs, là, les machins, les trucs. Alors c'est dans le saint des saints, c'est hyper, hyper saint, hyper radioactif, très dangereux, il n'y a que le grand prêtre. Un petit peu moins sain, c'est les prêtres ordinaires, ils sont que dans l'espèce de pièce qu'il y a avant. Encore un peu moins sain, c'est l'hôtel des holocaustes. Encore un peu moins sain, c'est le parvis des hommes. Encore un peu moins sain, c'est le parvis des femmes. Encore un peu moins sain, c'est le parvis des païens. Et encore un peu moins sain, c'est le reste de la terre. Ça doit faire 7 degrés. Et on retrouve ça dans l'Apocalypse, les cieux sont stratifiés en 7. Donc vous voyez, c'est plus du binaire, c'est du, enfin voilà. Il y a des degrés. Et puis, alors encore une transformation, je vais très. C'est la sainteté du temps. Vous voyez. Il y a Dieu, l'espace et le temps. Qu'est-ce que c'est que la sainteté du temps? Ben, comme toute religion, enfin comme oui, il y a des jours de fête dans la religion d'Israël, avec parfois des fêtes de pèlerinage. Il y a 3 fêtes de pèlerinage, on va à Jérusalem. Ben, quand on va à Jérusalem. Bon, ben, ça prend bien la journée, hein, puis même peut-être un peu plus, hein, si on habite en Galilée ou à Beersheba, ça prend 3 jours hein, quand même, hein, faut y aller en marchant bien. Hein. Ben, du coup, c'est des jours qui sont consacrés à Dieu, vous voyez, c'est des jours saints finalement. Vous n'allez pas faire autre chose. Hein. Alors là, cette notion va être étendue de manière incroyablement importante dans la sensibilité juive, dans une institution qui a été inventée par les juifs, toujours pour résister à la culture dominante et prestigieuse de la Babylonie quand on était en exil à Babylone. Parce qu'à Babylone, les gens, ils avaient il y avait des temples, alors que, évidemment, les Juifs n'avaient pas de temple, pas question de construire un temple à Babylone. En fait, normalement, en exil, vous n'avez plus de vie religieuse, sauf si vous adoptez les dieux de vos vainqueurs. Donc, non. Il y avait plein de mouvements de migration forcée ou d'exil, enfin, ça c'est un truc très fréquent. Mais tout le temps, quand vous êtes déplacé, vous adoptez la religion et la culture, finalement, un peu tout ensemble, des vainqueurs. Les seuls qui n'ont pas fait ça, c'est les Juifs. C'est très bizarre, enfin, ils n'ont pas fait ça. Mais il faut résister. Le problème, c'est que quelqu'un qui a envie d'aller prier, il a envie d'aller au sanctuaire, il est à Babylone, mais il a envie d'aller à côté, il est à côté d'un temple, il a envie d'y aller. Et puis après tout, c'est pas si loin. Au niveau des rites, c'est pas si éloigné. Ils voient des types avec leur barbac, là. Alors, ils vont offrir leur agneau à Marduk. Mais alors, bon, c'est Marduk, c'est pas Yahvé. Mais enfin, en y mettant un peu du sien, finalement, peut-être qu'on pourrait dire, ils se ressemblent un peu. Ils appellent Marduk celui qu'on appelle. Mais on pourrait se débrouiller. Quoi, on pourrait. Alors, comment ils ont fait, nos amis prêtres ou deutéronomistes, ça c'est donc. Les laïcs et les prêtres se sont mis d'accord, pour une fois. Donc, ils ont dit qu'il faut qu'on fasse autre chose. Plutôt que on ne peut pas faire de temple, on ne peut pas sanctifier l'espace, mais on va sanctifier le temps. Et donc, ils ont institué le Shabbat. Coup de génie, ça c'est vraiment génial. Ils ont inventé le repos, quoi, le jour, le week-end, c'est quand même archi sympa. Non, mais c'est vraiment très sympa. Donc, Shabbat, avant l'exil, ça veut dire n'importe quelle fête où on arrête de travailler. Shabbat, ça veut dire d'ailleurs arrêter de travailler. Shvita, en hébreu moderne, c'est la grève. Il y a beaucoup de grèves d'ailleurs dans l'État moderne d'Israël. Shvita, ça veut dire arrêter de bosser. Ça n'a rien à voir avec un rythme hebdomadaire avant l'exil. Mais en exil, on invente le truc, on dit, mais on ne peut pas aller dans un espace sacré, on ne peut pas consacrer un espace à Dieu, on ne peut pas refaire un temple, mais on peut consacrer du temps à Dieu. Et donc, on fait des choses spéciales le jour du Shabbat. Pas des sacrifices, on n'a pas le droit, mais on va arrêter de travailler, on va arrêter le commerce, on va peut-être favoriser la méditation de nos traditions ancestrales, peut-être même comment essayer de prier un petit peu, même si normalement, en l'absence de temps, normalement, c'est pas trop possible de parler à Dieu. Normalement, il n'y a pas du tout de réflexe, tiens, je vais faire oraison dans ma chambre. Ça, c'est pas du tout le réflexe de l'homme de l'Antiquité. Hein. Il faut un temple. Enfin, on commence un peu à réfléchir à ça. On va faire des maisons qui sont les ancêtres des synagogues, où les Juifs, qui sont pas du tout des temples, où les Juifs se retrouvent le Shabbat pour travailler leur tradition. avec peut-être dans l'espoir qu'un jour, quand on reviendra sur la terre, parce que Dieu aura sanctifié son nom, eh ben, on pourra refaire un truc mieux qu'avant. C'est le Shabbat. Alors, je vous lis juste un magnifique passage d'un livre très beau qui s'appelle « Les bâtisseurs du temps ». Alors, le Shabbat, évidemment, on peut dire, une fois qu'on est revenu, après le retour d'exil à Babylone, on pourrait dire qu'on aurait pu laisser tomber le Shabbat puisqu'on avait de nouveau un temple. Mais la religion a ceci de particulier, c'est qu'elle fonctionne plutôt par accumulation. On garde tous les trucs, ça peut toujours servir, c'est vraiment le réflexe du bricoleur en fait. On accumule les trucs, on se dit ça peut toujours servir. Donc c'est vrai qu'en théorie, on aurait pu se débarrasser du Shabbat en disant bah, maintenant on n'est plus à Babylone, on refait des sacrifices au temple, mais on va garder le Shabbat, ça peut toujours servir. Donc on a eu un système avec à la fois des synagogues et du Shabbat et puis des sacrifices au temple. Il y a des sacrifices particuliers le jour du Shabbat. Et en fait, on a eu bien raison de le garder parce que comme le temple a été redétruit en 70 après Jésus-Christ, et là on n'a pas reconstruit, en fait, le judaïsme qu'on appelle rabbinique, c'est-à-dire postérieur à 70 après Jésus-Christ, s'est retrouvé un petit peu dans la situation des juifs exilés à Babylone, et donc il a tout investi sur le Shabbat. Et dans la spiritualité juive, le Shabbat, c'est hyper important. Hein. Il y a le chant Shabbat, il y a des très beaux chants, des danses, des machins. Enfin, voilà, il faut sentir ça. Alors, il y a un penseur contemporain qui s'appelle Abraham Heschel, qui a écrit un très beau livre sur le Shabbat qui fait comprendre cette spiritualité du Shabbat, et je vous invite à le lire. Ça s'appelle « Les bâtisseurs du temps ». Vous voyez, les païens, ils construisent, ils bâtissent dans l'espace. Nous, on bâtit dans le temps. Puis il y a des tas de réflexions un petit peu existentialistes là-dessus. Enfin, c'est très intéressant. Alors, comment qu'il dit ? Je vous cite Abraham Heschel. « 6 jours durant, il parle des Juifs, hein, nous luttons avec le monde, arrachant sa richesse à la terre. Mais le Shabbat, nous avons à prendre soin de la semence d'éternité confiée à notre âme. Nos mains sont au monde, mais notre âme appartient à quelqu'un d'autre. » Voilà, c'est séparé du monde, la sainteté. Séparé, consacré. « 6 jours durant, nous travaillons à dominer le monde. Le 7e jour, nous essayons de nous dominer nous-mêmes. » Ce qui est une toute autre paire de manches. « Le travail est un métier, je reprends à part l'échelle, mais le parfait... » J'aime beaucoup cette phrase. C'est un peu le programme de ma vie, d'ailleurs. « Le travail est un métier, mais le parfait non-agir est un art. » J'adore cette phrase. C'est tellement difficile de rien faire. À mon école, vous y arriverez. Hein. On y atteint par un accord de l'imagination, de l'esprit et du corps. Pour exceller dans un art, il faut en accepter la discipline. Le 7e jour est un palais dans le temps que nous-mêmes, donc le Shabbat, le 7e jour est un palais dans le temps que nous-mêmes bâtissons avec les matériaux que nous tirons de notre âme, de notre joie, de tout ce qui est incommunicable. Le 7e jour est la demeure où l'humain se trouve à l'aise avec le divin, où l'homme aspire à parfaire sa ressemblance avec le divin modèle. C'est vraiment très beau, je crois. Vive le 7e jour est un art, c'est l'art de peindre sur la toile du temps la mystérieuse grandeur de la création à son apogée. Super classe comme phrase, hein. On peut se mettre dans une vie certaine. C'est l'art de peindre sur la toile du temps la mystérieuse grandeur de la création à son apogée. Pourquoi ? Ben oui, Genèse 1, la création, hein, Dieu créa, puis le 7e jour, que fait Dieu ? Il s'arrête de bosser. Tout comme Dieu, nous sanctifions le 7e jour. Ben oui, c'est ce que je viens de dire. L'amour du Shabbat, c'est l'amour de l'homme pour ce que Dieu et l'homme possèdent en commun. Alors pour nous chrétiens, c'est quoi le grand trésor commun à Dieu et à l'homme ? Ben oui, c'est ça. Hein. Alors nous, on a transposé le Shabbat sur le dimanche, mais c'est beau de se dire qu'on a, y a un truc, enfin, moi je trouve ça hyper beau en fait. Quand est-ce qu'on est ami de quelqu'un ? Je vous l'ai dit 1000 fois, je peux me répéter, mais c'est quand on a un trésor en commun en fait. C'est pas de se regarder en champ de faïence qui est intéressant. Enfin, ce qui est intéressant, c'est d'avoir un trésor commun. Et on a un trésor commun avec Dieu, c'est Jésus. Et quand est-ce qu'on se retrouve ? Ben, c'est normalement le dimanche. C'est le Shabbat de nous, en fait, quelque part, le dimanche. Et puis, alors, la sainteté du peuple aussi. Je continue de travailler mon truc. Bon, rassurez-vous, dans 5 minutes, j'ai terminé. Hein, parce que je m'arrêterai au milieu d'une phrase. C'est pas très grave. Alors, ça encore, on vient subvertir la sainteté de l'intérieur. Hein. Je vous ai dit, normalement, la sainteté, c'est le rituel. Qui est l'homme de la sainteté ? Quels sont les professionnels de la sainteté, finalement ? Les prêtres, bravo, qui a dit ça ? C'est Jean-Daniel ? Mais c'est bien, Jean-Daniel, c'est exactement ça. C'est très, c'est-à-dire, non seulement, c'est pas simplement au fait qu'on est saint. Enfin, je me place dans le cadre de l'hypothèse d'un prêtre païen, hein, vous avez compris. Parce que je vais, quand je vais par métier, en fait, quand je mets la boue, là, le truc sur l'autel, tout est saint, là. Donc, c'est surtout que c'est moi qui sais les règles de comment on passe de la sainteté du profane, les degrés. Je contrôle le sacerdoce, élabore une théologie de la sainteté. C'est vraiment les spécialistes de la sainteté. C'est un problème de sainteté. Va voir le prêtre. Si par exemple tu ne sais pas trop, tu dis mince, alors attends, j'ai participé à un repas pascal, mais il se trouve que j'avais donné le biberon à ma petite qui est née il y a moins de 60 jours. Alors c'est une fille, c'est pas un garçon, donc du coup elle n'est pas encore purée. Enfin, des trucs très compliqués, on ne sait plus. Alors on va voir le prêtre, on lui explique le machin, alors on lui donne un petit. Enfin voilà, l'ouvrier mérite son salaire, hein, on lui donne un petit truc. Et puis alors en échange, ben voilà, c'est très simple. Donc c'est pas grave, au contraire, on t'offre un sacrifice parce que tu as profané un peu du saint, c'est pas bien. Voilà. C'est le professionnel de la sainteté. Et voilà que la Bible nous dit qu'en fait, tout le peuple d'Israël est appelé à être saint. Un peu comme je disais, normalement c'est limité dans la palissade du temple, mais finalement ça devient toute la terre qui est sainte. Ben, la sainteté qui devrait être la spécialité du prêtre, voilà qu'elle va se communiquer à tout Israël. Pauvre prêtre, hein, pour dire, mais qu'est-ce qu'il vit ? Il n'a plus qu'à aller voir Pôle emploi. Hein. Il est plus. Alors, comment c'est ? Alors, où est-ce qu'on a ça, par exemple, dans l'élection ? Alors, le verset, évidemment, vous connaissez tous. Je vous l'ai dit 10 000 fois. Quel est le verset important dans la conclusion de l'Alliance, dans l'Exode, au moment de la péricope du Sinaï, chapitre 19 ? Je vous tiendrai pour. Exode 19, 6. Je vous tiendrai pour un royaume de prêtres, une nation sainte. Ah, et le coup, là. Oui, on a une conférence là-dessus ? Où on va avoir ?
Oui,
la loi de sainteté. Voilà, bravo, tu m'as interrompu grossièrement, mais je te pardonne. Et c'est exactement ça, voilà. C'est exactement la loi de sainteté, mais j'y arrive. Tu anticipes parce que tu es intelligent, mais voilà. Au moment où on va conclure l'alliance, Dieu est en train de dire, et c'est des prêtres qui écrivent ce passage, moi je trouve qu'ils sont quand même, ils sont bien braves quand même. Hein. Et Dieu dit, je vous tiendrai pour un royaume de prêtres. C'est-à-dire, en gros, vous avez tous être prêtres. Mais c'est pas très. Ouais, c'est, on tire un peu. Enfin, moi, un jour, on me dit, oh, ben voilà, ça y est, maintenant, en fait, on a un petit peu changé nos trucs. Donc, tout le monde va pouvoir un peu dire la messe. Donc, un coup, ça va être moi, par exemple. Et un coup, ça va être Étienne. Peut-être même Florence qui dira la messe. Je tirerai un petit peu la gueule, quoi. Je dirais, oui, t'es sûr que c'est vraiment ça on va regarder les textes, quand même. Oui, c'est quand même une grosse révolution, hein, de dire, on est tous prêtres. On est tous prêtres, c'est une grosse révolution. Un royaume de prêtres. Et puis une nation sainte. Mais en fait, vous voyez, c'est typique de la rhétorique sémitique. On dit deux fois la même chose. C'est quasiment la même chose de dire vous êtes un royaume de prêtres, vous êtes une nation sainte. Donc tout le peuple est appelé à être saint. Une espèce de démocratisation de la sainteté. Et alors, comme qui nous disait Étienne, mais ça c'est parce qu'il est prince, alors du coup il est très très fort. Hein. Il a dit c'est la loi de sainteté. Toute la deuxième partie du Lévitique, donc la première partie nous explique les sacrifices, les machins, le truc, tu mets du saint, tu mets du machin, tu mets. Et la deuxième partie, c'est quoi ? C'est de nous dire, on n'est plus du tout dans l'enceinte du temple, donc la loi, c'est à partir du chapitre 17. La première partie, c'est, ça s'appelle P, enfin les exégètes appellent ça P, c'est Lévitique 1-16. Lévitique 16, c'est l'homme qui pour, c'est le sommet de la sainteté, oui, c'est le grand prêtre qui va une fois par an dans le Saint des Saints. Donc on est dans une logique de sainteté qui est centripète. C'est ça, hein ? Et voilà que à partir de Lévitique 17 jusqu'à 27, c'est ce qu'on appelle H, ça veut encore dire Heil des Schichten en allemand, et P c'est Priester Codex. Enfin, je ne connais pas cette langue, mais enfin je crois que c'est ça, les évêques disent ça. Voilà qu'on nous dit, en fait, par votre agir éthique. C'est-à-dire, tu vas pas mentir, faut pas voler, faut pas tuer, faut dire bonjour à la dame, mouche ton nez, enfin. Et puis, tu vas être saint. Alors, il y a un refrain qui est 1000 fois dans cette partie, c'est soyez saint, car moi je suis saint. C'est-à-dire, soyez séparés, parce que moi je suis séparé. Mais ça s'adresse à tout Israël. Et donc, on est dans une logique exactement centrifuge. Vous voyez, c'est comme si le Lévitique nous dit, vous avez des rites. Tac, 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 où par les degrés de sainteté, on élimine de plus en plus, puis il y a le grand prêtre qui est au summum de la sainteté, du Yom Kippour, c'est-à-dire qu'on pardonne les péchés, Et là, c'est la sainteté qui éclate dans son, c'est le corps du réacteur. Et après, pouf, 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 ça va s'étendre à tout le peuple. Soyez saints, car moi, je suis saint. Et donc, c'est une autre manière. De même que la sainteté de Dieu, c'était une autre manière de parler de la transcendance de Dieu, la sainteté du peuple, c'est une autre manière de parler de l'élection. Le peuple est saint parce que je vous ai choisi, hein, Dieu. Bon, alors là, j'avance, pétard, je suis très... Alors, j'avais prévu de parler de l'apocalyptique, c'est rigolo, j'adore l'apocalyptique, je suis un séminaire là-dessus. C'est vraiment marrant comme tout. C'est la télé sans... C'est la télé à l'époque où il n'y avait pas l'électricité, l'apocalyptique. J'adore. Bon, enfin, je ne vous parle pas de l'apocalyptique. Si vous voulez, venez à Monseigneur ou Bernardin. Alors, dans le Nouveau Testament, qu'est-ce qui change? Rien et tout. Comme toujours, rien et tout. Rien ne change. Plus ça change, plus c'est pareil. Donc, tout, c'est rien parce que, évidemment, c'est complètement pétri des conceptions juives vétérotestamentaires. Et on les garde. Mais tout parce que il y a une concentration christologique de tout. Donc, tout ce qui était vécu dans l'Ancien Testament comme sainteté, je vous l'ai dit, ça devient... Ça se concentre dans la personne du Christ. Alors, je note quand même deux appellations qu'il faut repérer dans le Nouveau Testament. Alors, on a beaucoup dans l'Épître aux Hébreux, dans le prolongement, et chez Paul, dans le prolongement de la dimension rituelle, on va appeler chose sainte ce qu'on appellera plus tard les sacrements. Les choses saintes. Les sancta, vata, agia. Ce qu'on a gardé dans notre vocabulaire hein, quand on parle de la Sainte Messe, le Saint-Sacrement. Voilà, c'est tout à fait. Pourquoi ça? Ben évidemment. Si la sainteté, c'est Dieu qui prend possession d'une réalité, de même que Dieu habite son temple, de même que Dieu habite la terre de Canaan, la terre sainte, je veux dire, l'Eucharistie, c'est le truc le plus saint qui existe sur terre, puisque Jésus il y est personnellement, son humanité, sa divinité. Vous voyez. Donc c'est encore plus saint que la terre sainte, c'est encore plus saint que le Saint des Saints. S'il y a une chose qui prend pas, vous voyez, c'est le Saint-Sacrement, parce que c'est le Saint et le Sacrement par antonomase. Mais on a gardé aussi l'idée que le peuple doit être saint. Sauf que maintenant, ça va être désigné les baptisés, ceux qui sont plongés dans le Christ. Par exemple, la manière dont les épîtres, les premières épîtres catholiques écrites par Paul ou par Pierre, quand on s'adresse à une communauté, aux chrétiens, on ne va pas dire aux baptisés, ni même aux chrétiens, ce n'est pas tellement chrétien, ce n'est pas un nom que les chrétiens utilisent. C'est plutôt un sobriquet, c'est sans doute des païens qui ont appelé les chrétiens des chrétiens et peut-être pas forcément en très bonne part. Alors comment ils s'appelaient les saints en fait? Donc, moi, Paul, apôtre, j'écris aux saints qui sont à Rome, aux saints qui... Ça ne veut pas dire, c'est pas que c'était tous des saints au sens de Padre Pio et de Mère Teresa, c'est qu'ils sont baptisés, ils appartiennent au Christ. La sainteté, c'est plus appartenir à Dieu, c'est appartenir au Christ parce qu'on est plongé dans la mort et la résurrection du Christ. Et par extension, c'est toute l'Église qui est sainte. Les personnes sont saintes, mais l'Église est sainte. Alors par exemple, ce passage où il faut faire un peu d'acrobatie quand on va à la messe, Éphésiens 5, 25, 27, Marie, aimez vos femmes. Enfin, j'ai coupé bien pour que là, donc là, ça va bien. Marie, aimez vos femmes, comme le Christ a aimé l'Église, il s'est livré pour elle afin de la sanctifier. Enfin, le Christ s'est livré, il a aimé l'Église, il s'est livré pour elle pour la sanctifier. L'Église est collectivement sainte, on peut dire. En la purifiant par le bain d'eau qu'une parole accompagne. Alors, c'est quoi ce bain d'eau qu'une parole accompagne? C'est le baptême, hein, évidemment. Hein. Voilà, donc alors ça c'est. Alors qu'est-ce que j'ai dit d'autre? Bon, il faut que. Voilà, je m'arrête dans une minute. C'est très, très mal conduit, mon. C'est très très mal foutu, ma cause. Toujours comme ça, je m'attarde, puis je raconte des petites histoires drôles qui font rire personne. Du coup, je perds du temps. Qu'est-ce que je peux dire? Ah oui, si, quand même. Alors, il y a un truc intéressant, il faut aussi voir, c'est que. Ah oui, si, voilà. Oui, une expression qu'on peut retenir, c'est la communion des saints. Alors là, je passe déjà dans la tradition chrétienne. Ce n'est pas une expression qu'on a dans le Nouveau Testament, mais vous savez, dans le credo, le symbole des apôtres, on dit « je crois en l'Église », c'est ça, « une sainte ». Donc comment c'est « je crois en l'Église » Non, ça c'est dans le credo, c'est dans le symbole de Nicée, non? Voilà. En tout cas, on croit à la communion des saints. Qu'est-ce que ça veut dire, la communion des saints? Eh bien, c'est, il y a un jeu de mots sur la sainteté aux deux sens que j'ai dit. C'est à la fois la communion des personnes saintes, c'est-à-dire des baptisés, en fait. Quand on dit la communion des saints, ici, c'est pas forcément les saints du ciel reconnus tels dans le calendrier romain. C'est tous les baptisés, et d'abord les baptisés qui sont à la messe. Et, mais c'est quoi aussi? C'est la communion. À quoi les communient les saints? Ben, la réalité sainte par excellence, qui est la communion, enfin, qui est l'Eucharistie. Oui, ça, en fait, ça nous désigne la communion des personnes saintes aux choses saintes, à la chose sainte par excellence, qui est l'Eucharistie. Alors, dans la tradition chrétienne, qu'est-ce qui va se passer de plus? Enfin, qu'est-ce qu'on ajoute? Ancien Testament, j'ai expliqué. Nouveau Testament, tout change et rien ne change. Simplement, le Christ, pour le dire très vite et très mal, le Christ prend la place de Dieu. Vous avez rentré mal dit. Enfin, en gros, c'est ça. Avec tous les changements que ça opère, c'est-à-dire qu'on n'a plus, on ne va plus offrir de la barbaque, mais on offre la Sainte Messe, il n'y a plus le rituel de purification, mais il y a le baptême, donc il y a des choses qui changent. Enfin, vous voyez, en gros, tout, enfin, c'est ça, Jésus, ce qu'il fait, c'est qu'il devient, enfin, c'est l'accomplissement des Saintes Écritures. Tout change et rien ne change. Qu'est-ce que la tradition chrétienne va ajouter? Eh bien, justement, l'élément qui était celui par lequel j'ai commencé cette causerie laborieuse, à savoir l'aspect de perfection à la fois morale et spirituelle d'un baptisé, donc d'un saint au sens de l'Église primitive, mais qui a tellement été fidèle à son baptême que finalement on peut dire cet homme ou cette femme est pour nous un modèle, un exemple, un disciple, une source d'inspiration. Et même l'Église, si c'est un saint canonisé, l'Église nous dit, mais vous pouvez même le prier, vous pouvez l'invoquer, vous pouvez faire une église, une paroisse à son patronage, enfin ce genre de choses. Mais toute cette dimension, je vais dire ça comme ça, de la sainteté acquise, et acquise quand même laborieusement, enfin par le combat spirituel, par l'exercice des vertus, parce qu'après tout, le baptême, c'est quand même vrai ça, le baptême, c'est formidable d'être baptisé, mais c'est ah, ça peut, parfois, il y a un long chemin de conversion, hein, je ne suis pas en train de dire, mais disons, quand on a été baptisé, on sort du baptistère, en fait, tout est... Alors là, encore, tout change et rien ne change. C'est-à-dire que tout change parce que je suis devenu enfant de Dieu, le péché originel est pardonné, je suis intégré à l'Église, mais par ailleurs, je dirais, dans ma texture humaine, à la fois mes qualités, mais peut-être aussi mes faiblesses, mes fragilités, mes péchés, mes addictions, enfin, tout ce qu'on peut imaginer... rien ne change. Enfin, je veux dire, par exemple, si j'étais accro à la cigarette avant la veille de mon baptême, j'aurais toujours envie de fumer mon paquet de clopes le lendemain. Vous voyez, alors, il y a un travail laborieux, il y a un combat pour devenir ce qu'on a reçu instantanément dans le baptême, qui s'appelle la grâce sanctifiante, qui est ce qu'on appelle en langage technique médiéval un habitus infus. Il faut engager sa liberté, et puis ça prend du temps, et puis des fois on se plante, et puis il y a des retours en arrière, il y a des périodes où ça va moins bien, et puis il y a des moments où ça va quand même bien, où le Seigneur nous donne une grâce, et puis voilà, et puis on est aidé par les autres, par les sacrements, par tout ça, et on devient un saint. Donc ce que l'Église, finalement, l'insistance qu'il va avoir, c'est plutôt de voir la sainteté comme point terminal que comme point initial du parcours. Alors, les étapes sont très simples et vous les connaissez, donc je vous les rappelle en 3 secondes. C'est d'abord, évidemment, le martyr. C'est la première forme que prend la sainteté comme point terminal. C'est tellement primitif comme manière de faire, c'est que, après tout, c'est ce qu'on a déjà dans le Nouveau Testament, puisque on nous donne un exemple qui est le proto-martyr. Qu'est-ce qu'il dit? En fait, j'entends rien, en plus, je suis vraiment sourd. Hein. Si vous entendez pas plus ce que je dis que ce que moi j'en dis,
si,
vous entendez bien. Par exemple, c'était quoi? Alors c'est qui du coup le premier? Oui, c'est Saint-Étienne, mais bien sûr. Mais d'ailleurs, c'est Saint-Étienne, voilà, qui meurt. Comment, quelle est la dernière parole de Jésus? Santé aux urbains, je vous ai compris. Non, ça c'est dans Tintin. C'est la dernière, pas la dernière parole de Jésus, la dernière parole de Saint-Étienne. Voilà. Et alors c'est la dernière parole de Jésus. Il meurt comme dans l'évangile de Luc. Saint Étienne meurt comme Jésus meurt, en fait. Voilà, c'est ça la première idée du de la sainteté comme point terminal, c'est meurt comme Jésus. Sois martyr comme Jésus, ou en tout cas, tiens-toi prêt à être martyr comme Jésus. Alors, un texte qui élabore beaucoup cette sainteté du martyr, c'est l'Apocalypse de Saint Jean. C'est fait de manière prodigieuse. Et comme le disait un grand esprit, l'apocalyptique, c'est la télé avant l'électricité. Hein. Donc, merveilleuse comparaison, hein. Très, très pertinente, hein, très juste. Donc, il y a une théologie du martyr. Alors, au moins, sois prêt au martyr. Peut-être que tu n'auras pas la chance d'être martyr. Peut-être qu'on ne va pas t'éviscérer encore vivant. Peut-être qu'on ne va pas te décapiter après t'avoir écartelé et brûlé. Donc, peut-être que tu n'auras pas cette chance. Tout le monde n'a pas cette chance. Mais en tout cas, tiens-toi prêt, et c'est ça la sainteté. Alors ça marche très bien tant qu'il y a des gens qui sont prêts à vous martyriser. Mais malheureusement, il y a la conversion de Constantin, et donc au bout d'un moment, on n'arrive plus. Le martyr n'est plus une hypothèse crédible. Alors là, la tradition chrétienne va essayer d'identifier d'autres formes, concrètes de sainteté. Alors il y a d'abord les moines. Parce que finalement, le moine quitte le monde, puisque le monde ne te met pas à mort, mets à mort le monde. Voilà. Et quitte le monde et vit comme un ascète. Par exemple, en mangeant une olive tous les 3 ans. Et en recrachant le noyau. En te laissant pousser les cheveux. C'est très important, ça, chez les ongles. En arrêtant de te laver, par exemple, ça aussi. Alors, ils font, alors des fois, c'est un peu bizarre. On monte sur une colonne, les stylites, hein, ça prend des trucs un peu bizarres, hein, pour en connaître. Alors, la sainteté des ermites et des moines. Autre forme de sainteté qui a été mise en valeur, c'est, là, évidemment, à peu près en même temps que la sainteté des moines, d'ailleurs, c'est la sainteté des évangélisateurs. Voilà, j'en parlais tout à l'heure à l'homélie, hein, ceux qui vont... porter l'évangile dans des peuples païens, des peuples barbares, ou des peuples qui sont imparfaitement convertis, qui sont un petit peu qui ont une tendance arienne, des trucs comme ça. Tu vas leur porter l'évangile, et si ça se trouve, peut-être si tu les énerves bien, ils vont te mettre à mort. Si ça se trouve, donc coup double. T'es à la fois évangélisateur et martyr, ça vaut le coup, quoi. Et pour peu que t'aies été ermite et moine pendant 10 ans avant, pof, 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 t'as eu 3 couronnes. Donc là, ça vaut le coup, hein. Ça c'est du bon. Alors saint, qu'est-ce qu'il y a comme saint? Il y a saint Wilfrid, saint Boniface, saint tous ces mecs là, hein. Ou saint machin là, saint truc là, saint Cyril et Méthode. Bon, il y en a plein. Vous êtes une belle saint évangélisateur. Alors un truc un peu moins bien, mais c'est quand même assez classe, mais c'est pas ouvert à tout le monde. C'est les saints évêques et les saints papes qui gouvernent sagement l'Église. Bon, alors c'est un peu, moi je trouve que c'est un peu moins de classe, quoi. Enfin, c'est bien aussi, hein, mais c'est le type, c'est le bon gouvernant, en fait. C'est le type qui a un bon relais de Dieu, mais voilà, qui a pris les bonnes mesures, qui est. Bon, je sais pas, par exemple, c'est Grégoire VII, par exemple. Hein. Je pense que c'est un. Alors, il y a un truc aussi qu'on fait au Moyen-Âge. Alors, c'est un peu comme. C'est le même pendant que les évêques et les papes, mais du côté profane, c'est les saints rois, ou les saints reines. Genre Saint Louis. En fait, chez nous, il n'y a que Saint Louis, d'ailleurs, hein, je crois qu'il est roi. Hein. Mais c'est le roi qui fait preuve de justice, qui fait preuve aussi de miséricorde. À cette époque-là, il faut reconnaître une preuve de sainteté des rois, c'est qu'ils favorisaient aussi l'Église, hein, donc c'est aussi un critère de sainteté. Mais par exemple, on est attentif au fait que les rois, qui sont des puissants et des riches un peu, ben, aiment les pauvres. Vous voyez que, et même parfois, il y a des princesses sans royal qui deviennent, qui passent leur vie à servir les pauvres, c'est ce genre de truc. Et puis, alors, un truc très important, c'est Vatican II, au XXe siècle, donc, qui, d'une certaine manière, a rappelé quelque chose qui, au fond, est déjà dans le Nouveau Testament, mais qu'on avait un petit peu perdu de vue et qu'on voit mieux, justement, c'est un petit peu l'homélie que j'ai balbutié tout à l'heure, mais dans un contexte qui n'est plus un contexte de chrétienté, finalement, on reprend conscience du fait que la sainteté, c'est pas l'apanage des évêques, des papes, des évangélisateurs, mais il y en a, si tout le monde est évangélisé, il n'y a plus besoin, ou des moines, ou des religieuses, ou des prêtres, mais que c'est l'affaire de tout le monde. Voilà, ça c'est une grande insistance de Vatican II sur ce qu'on appelle la vocation universelle à la sainteté, c'est-à-dire tout baptisé et appelé à être saint. Et je dirais que c'est un peu dans la théologie de la sainteté, c'est un peu la dernière forme, la dernière insistance, c'est qu'on insiste beaucoup, je dirais, depuis Vatican II, par quelqu'un comme Jean-Paul II, vraiment, il y allait très fort dans cette direction, en canonisant des gens qui n'étaient ni pape, ni évêque, ni moine, ni évangélateur, mais qui étaient père et mère de famille, comme vous et moi. Enfin, on n'a jamais rien pu prouver. Mais non, mais qui avait un métier qui était, alors qui parfois qui était consacré quand même, mais dans le monde, il y a des laïcs consacrés, ce n'est pas forcément des religieux, des gens qui avaient une vie de famille, des gens, voilà. Et c'est vraiment, on pourrait dire des gens ordinaires, mais non, c'est jamais ordinaire d'être saint. C'est toujours merveilleux d'être saint. C'est merveilleux d'être saint. Et alors Jean-Paul II, et des fois même il a canonisé des couples ensemble, ça c'est assez chouette, ouais, de dire, ça rappelle quelque chose du sacrement du mariage. Il y a peut-être des gens parmi vous qui sont mariés. Oui. Et bien, c'est quoi le mariage? En fait, normalement, c'est un truc où on est chacun instrument de la sainteté de l'autre. Et c'est ça qui fait que c'est beau et parfois un petit peu compliqué, évidemment. Hein. Et bien, du coup, si vous canonisez un couple marié, c'est vachement beau parce que, en fait, vous dites, c'est comme mettre en valeur l'efficacité du sacrement du mariage comme tel. Ça, pour eux, ça a marché. Et ils se sont sanctifiés, enfin, ils se sont, sanctifiés l'un l'autre. Par exemple, il y a leur machin et truc, là. Voilà. Mais il y en a d'autres. Donc, ça, c'est très bien. Et il faut être des saints, finalement, je m'arrête là. Bon, après, j'avais prévu des trucs sur la procédure de canonisation, mais on s'en fout un peu, puis il y aura une conférence là-dessus. Bon, j'ai été trop bavard. Est-ce qu'il y a des questions? Non, je vois qu'il n'y en a pas, donc. Bon, bah, alors, vas-y, Jean-Daniel, il est rapide.
Juste, en fait, est-ce qu'il y a une différence entre le pur et l'impur, et le saint et le...
Oui. Bonne question, ça n'a. En fait, le pur conditionne l'accès au saint. L'impur, ça empêche d'accéder au saint. Mais l'impur n'a rien de mal, hein. C'est pas du tout mauvais d'être impur. Hein. Enfin, c'est, ça n'a absolument aucune connotation morale. Simplement, quand tu es impur, tu ne peux pas accéder au saint. Je l'ai expliqué. Quand j'ai expliqué ça? Je ne sais plus. Mais en gros, la question, c'est que ça, c'est chez les juifs, hein, je le dis. Hein. C'est que Dieu, c'est de respecter les séparations que Dieu a inscrites dans la création. Et tout acte qui transgresse une limite te fait contracter une impureté. Et le modèle du genre, c'est mourir et vivre. Ça fait un peu James Bond, en fait. Hein. Mais c'est comme ça aussi. Là. Typiquement, impureté majeure, c'est enterrer son père. À tel point que le grand prêtre n'a même pas le droit d'enterrer son père. Hein. Parce que c'est le grand prêtre. Donc, mais... Non seulement c'est pas mauvais, mais même c'est une œuvre de miséricorde, y compris dans le livre de Tobit. Hein. C'est une très bonne chose d'enterrer, pas simplement son père, mais d'enterrer quelqu'un. Et dans l'Antiquité, c'est très important. Hein. Pas que chez les Grecs, il n'y a pas que chez Antigone, mais. Et ça vous fait contracter une impureté majeure. Vous voyez, on vous dit à la fois, il faut que tu le fasses, c'est très bien. Dieu veut que tu le fasses et il te le tient comme une action bonne. Et bim, une bonne grosse impureté. Une autre bonne grosse impureté, c'est la symétrique, c'est mettre au monde un enfant. Impureté majeure, et deux fois plus grave si c'est une fille qui naît plutôt qu'un garçon. On se chope 80 jours d'impureté si c'est une fille. Donc on ne peut plus rien faire, en fait. C'est les congés de maternité, en fait. On ne peut plus rien faire, parce que quand on est impur, dès qu'on touche un truc, ça devient impur.
Mais là, par exemple, on ne comprend pas très bien quelle est la limite qui a été transgressée.
Ah si, c'est la limite entre la mort et la vie. C'est Dieu qui fait mourir et vivre. Donc, si tu touches la mort, tu touches Dieu. Si tu touches la vie, tu touches Dieu. Mais comment empêcher un homme de mourir et comment empêcher quelqu'un d'enterrer son père et comment empêcher une femme de mettre au monde un enfant? Donc, mais simplement, tu te payes une énorme impureté parce que ça te vise dans le crâne que là, il s'est passé quelque chose qui t'échappe. Tu ne contrôles pas la mort, tu ne contrôles pas la vie. Énorme impureté. Et donc, tu n'as plus accès au saint. Il va plus à la messe. Quand même. Okay. Ça va, ça? Je vois qu'il n'y a plus de questions. Oui, bon, alors Marie, vas-y. Attends, redis bien fort. Quoi. Oui. Oui. Centripète et centrifuge. Oui. Oui. Tu veux m'entraîner sur un terrain glissant? C'est une question un peu compliquée. Hein. C'est-à-dire, alors, il y a des gens, mais je ne suis pas d'accord avec eux, qui disent... Enfin, il y a une donnée historique. Hein. Ce qui est vrai, c'est que, au moment... C'est que, disons, le sacerdoce, le sacerdoce, le ministère ordonné, enfin le... Parce que le baptême, on est tous prêtres par le baptême. Vous voyez, ça c'est ce qu'on dit quand on baptise, tu es prêtre, prophète et roi, on dit ça. Donc d'une certaine manière, vous êtes tous prêtres, hein, quelque part, un peu. Hein. Alors moi aussi je suis prêtre. Mais pas que par mon baptême, c'est-à-dire. Et alors, il y a des gens qui disent, mais finalement, cette espèce de réserver un personnel sacerdotal pour l'exécution des rites, c'est rejudaïser la nouvelle alliance. Alors, ça n'est pas complètement faux, même historiquement, parce que de fait, quand le christianisme s'est diffusé, s'est organisé, qu'à un moment donné, on veut faire un culte public, bah, il fallait bien qu'on... Au début, il y avait ce qu'on appelait les domus ecclésiae, donc ça se faisait, on était 4 ou 5 dans la maison d'un type, en plus un peu en cachette s'il y avait des persécutions. Bon, on disait, aura tes fratresses pas trop fort, voilà. Et puis, on faisait bien gaffe. Mais quand, à un moment donné, ça devient une religion, même officielle de l'Empire romain, ouais. Le christianisme devient une religion, devient aussi une religion publique, quoi. Enfin, un truc. Et alors, ben, forcément, il faut qu'on organise les choses un peu différemment. Et où est-ce que les évêques et les papes et tous ces gens-là ont puisé ? Ben, dans un réservoir d'idées qui était l'Ancien Testament. Donc c'est vrai, alors même dans les abbayes, dans les rites, il y a pas même une basilique comme ça. En fait, c'est... Donc liturgie basilicale, c'est complètement dans une logique apocalyptique, mais aussi mais sacerdotale, en fait, de l'Ancien Testament. Hein. C'est exactement avec le cœur, les marches d'escalier, il n'y a que moi qui touche l'autel, un diacre... Il peut baiser l'autel mais pas mettre la main, donc c'est qu'on est complètement dans l'Ancien Testament. C'est comme ça qu'on a fait, mais bon, moi je me dis, quelque part, ça a été tellement invalidé, validé par des conciles, des machins, des trucs, que c'était comme ça que l'Esprit Saint nous a guidés. Donc il faut bien regarder la différence, il y a deux sacerdoces, il y en a un qui est, je dirais, existentiel et qui est le plus important au fond, qui est quand même le sacerdoce baptismal, c'est quand même d'être saint au sens de ressembler à Jésus. Enfin, je veux dire, c'est... Et puis l'autre, on dit ministériel, ça veut dire un sacerdoce de service. Oui, je parce qu'il y a... C'est vrai, hein, je suis au service, en un sens. Hein. Quelque part. Hein. Bon, alors après, c'est vrai que c'est plutôt vous qui allez faire la bouffe et tout ça, mais dans un autre sens, très vrai, je suis au service. Donc, on est ministre, on est là. En fait, c'est quoi le prêtre ordonné ? Il est au service du sacerdoce des baptisés. Voilà, c'est ce que dit Vatican II. Alors qu'il garde le côté réservé, c'est vrai, il n'y a que lui qui consacre, il n'y a que lui qui fait des rites. C'est comme ça. Alors, c'est vrai que c'est un peu une question, aujourd'hui on parle du cléricalisme et tous ces trucs-là, bon, enfin, c'est un autre problème, mais disons, je me dis, on peut mal prendre les choses, on peut être, y a des mauvais prêtres, hein, il y a aussi des mauvais baptisés. Non mais on insiste beaucoup sur les péchés des prêtres, et on a bien raison, mais enfin... Tout le monde est pécheur, enfin, on peut mal. Il y a des prêtres autoritaires, cléricaux, insupportables et emmerdeurs, mais je vous garantis qu'il y a aussi des laïcs, peut-être pas cléricaux, mais très casse-pieds. Voilà. Bon, on a tous à se convertir et je me dis, on doit être des modèles de sainteté les uns pour les autres, et ça, bon, c'est un truc que je vis assez. Dans mon ministère sacerdotal, j'arrête pas de rencontrer des gens. Des laïcs, hein, des baptisés, mais qui sont pour moi des modèles de sainteté, et en fait qui m'aident, j'espère, à ne pas être trop insupportable, tu vois, enfin, c'est très fort quand un prêtre, par exemple, ça m'arrive, tu entends en confession quelqu'un, puis tu dis, mais en fait, c'est juste un saint, en fait, ça devrait être moi qui devrais lui dire, écoute, tu peux m'aider. Et puis, alors, en fait, c'est très impressionnant pour un prêtre de donner l'absolution. D'abord, tu te dis, c'est vraiment le Christ qui agit en moi, c'est pas moi, bon, on s'en fout, en fait. Et quand tu es prêtre, ça te donne un bon coup de pied au derrière pour dire il faudrait quand même que je me mette un peu. Il faudrait que je m'y mette, je ne peux pas toujours remettre au lendemain ma sainteté personnelle. Donc moi ce que je me dis, ce que Jésus nous demande, c'est pas qu'on se fasse la guerre, mais c'est qu'on essaye de s'aider à être saints les uns les autres, chacun dans sa vocation. Voilà, c'est plutôt comme ça. En gardant, c'est vrai, cette séparation rituelle. Qui existe, mais dont le Concile de Trente a un petit peu verrouillé les choses, hein, face à la contestation luthérienne, en fait, hein, qui va tout à fait dans cette ligne-là. Hein. La contestation luthérienne, c'est de dire il n'y a pas de prêtre autre que le baptême. Hein. Tout le monde peut. Alors, Trente a verrouillé les choses, hein, donc moi je suis catholique, hein, donc je ne vais pas dire le contraire de Trente. Hein. Je crois qu'il n'y avait plus de questions. Vas-y, très rapide.
L'impureté.
Oui.
Du coup, quand on est pur, on peut accéder au saint.
Voilà, c'est ça.
Mais quand on a accédé au saint, par exemple, en contact avec la vie et la mort, on devient impur.
Ah ben non, mais quand tu contactes... Ah ben non, mais attention.
Le contact de la vie et de la mort, c'est un contact de la sainteté.
Ah, pas tout. Ah, je vois ce que tu veux dire. C'est vrai que j'ai dit qu'on est en contact avec... Oui, c'est intéressant comme manière de... Mais oui, en fait, d'une certaine manière, oui, on peut dire ça comme ça, mais c'est... T'es en contact en sainteté, mais dans un truc qui est... Comment dire ? Comment dire ça ? Il y a quelque chose qui est quand même pas normal. Enfin, je ne sais pas comment bien... Comment trouver le truc ? Je vais prendre une analogie boiteuse, mais après la communion, le prêtre purifie les vases sacrés. C'est encore un exemple, d'ailleurs, tiens, c'est complètement juif comme rite. Dans le vase sacré, il y a eu quoi ? Il y a eu le sein, enfin, il y a eu le précieux sang, il y a eu le corps du Christ, et pourtant on le purifie. C'est pas que c'était impur, là, pour le coup, c'est que c'était saint, mais comme le vase, il va quitter l'autel et on va le mettre dans l'armoire de la sacristie, d'une certaine manière, il va changer de monde. Et alors, si on le fait pas, il y a un problème. Enfin, tu vois, donc du coup, c'est ça, il faut faire quelque chose. Il y a un rite à observer, en fait, pour être purifié. Et donc, si tu enterres quelqu'un, ou si tu mets au monde quelqu'un, tu reprends pas la vie comme ça. Il faut que tu te purifies. Alors, c'est pas si compliqué que ça, de se purifier. Il faut que tu attendes, alors au minimum, hein, parce que pour les femmes enceintes, c'est très long, mais pour les autres, c'est tu attends qu'une nuit, enfin, il faut qu'il y ait une nuit qui passe, que tu te sois baigné en entier et que tu aies lavé ton vêtement. En gros, on est sûr que tu contamines personne. Enfin, c'est plutôt ça l'idée.
Donc c'est une régulation du passage.
Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que la sainteté, c'est vrai que dans une certaine manière, tu peux dire la sainteté rend impur. Je crois qu'on peut... D'ailleurs, dans le judaïsme, pour dire qu'un livre est canonique, c'est-à-dire fait partie de la Bible, donc est saint, livre saint, tiens, j'aurais dû en parler, la sainte Bible. Voilà encore une expression habitée par Dieu. L'expression, c'est est-ce que tel livre souille les mains ? Et quand on dit qu'un livre souille les mains, on veut dire en fait qu'il est inspiré par Dieu. C'est exactement pareil. Le Cantique des Cantiques, est-ce que ça souille les mains ? Alors oui, ça a été disputé, mais on a fini par dire oui, ça souille les mains. Autrement dit, c'est une parole de Dieu. Allez, c'est bien rigolo tout ça. On va s'arrêter, c'est très tard, on va dire les conflits.